Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, du verset 20 au verset 36.
Il est écrit « Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? » Jésus leur répondit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. »
Amen. Voilà ce que le Seigneur dit aux disciples, aux gens qui l'entouraient, aux pharisiens même qui étaient là. Il dit, croyez en la lumière. Donc pendant que la lumière est là, pendant que Jésus est là, bien-aimés, pendant que notre intelligence peut saisir les choses, saisissons le Seigneur Jésus. Attachons-nous à lui, attachons-nous à sa personne, attachons-nous à son exemple. Voilà, pendant que le temps est là encore. Et nous allons parler de la gloire de Jésus et de la gloire de son disciple. Quelle est la gloire de Jésus ? C'est lui-même qui en parle. Il est écrit donc au verset 23, « Jésus leur répondit, l'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être glorifié dans votre version, ou bien dans ce que dans le français courant, va être élevé à la gloire. » Donc il va entrer dans sa gloire, va être élevé à la gloire. Et au verset 24, il dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. S'il meurt, il produit beaucoup de grains. » Donc, il parle bien de sa mort. Donc, quand il parle de sa gloire, il va être élevé à la gloire. Il parle de l'élévation à la croix. Donc, il va être crucifié. Il va être élevé comme il va en parler. Et à la fin, il dit, comme Moïse avait élevé le serpent, le Fils de l'homme va être élevé aussi. Mais élevé, là, c'est la crucifixion. C'est la mort. Donc, il parle bien de sa mort. Il appelle la crucifixion et sa mort, il appelle ça la gloire, sa gloire. C'est ça, sa gloire. Alors que lorsqu'on regarde bien dans l'acception générale de la gloire, dans la définition de ce que nous, on peut savoir de la gloire, c'est la renommée. C'est ça qui, ce qui fait ton succès, ce qui fait ta popularité. C'est ça, la gloire. La gloire, quand on dit quelqu'un est dans sa gloire, donc il est connu, il est réputé comme étant puissant, comme beau, comme fort, comme riche. C'est ça la gloire. Donc la gloire, c'est deux choses. L'éclat, la puissance et le pouvoir. Et en même temps, c'est la renommée. Tu as un éclat, tu as un pouvoir, tu as une puissance, et puis tu es très connu à cause de cela. C'est ça la gloire. Donc ça va avec la puissance, la beauté, la richesse, la force, et ainsi que la renommée par rapport à cela. C'est ainsi qu'on peut dire un footballeur, un président, un roi est dans la gloire. Et dans la gloire parce qu'il est connu, il a une puissance. Voilà. Donc, et les gloires ne sont pas pareilles. Il y a des gens qui ont de plus grandes gloires. Donc il y a des dimensions de gloire. Et Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. Alors que c'est quelle gloire? C'est la crucifixion. Il appelle sa crucifixion la gloire. C'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. Afin que les enfants de Dieu ne se trompent pas. Il y a trop de choses qu'on entend à gauche, à droite. Il y a la gloire du monde, mais il y a la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, la gloire selon Dieu, ce n'est pas la gloire selon le monde. C'est très important de saisir ces choses-là parce que tous ceux qui sont tombés, c'est parce qu'ils ont pris la gloire de Dieu. C'est écrit dans Ésaïe 42, 8. Je ne donnerai ma gloire à personne, dit le Seigneur. À chaque fois que nous comprenons mal ce qu'est la gloire, selon Dieu, c'est là qu'on chute. C'est comme ça que Satan a chuté. C'est comme ça que Adam a chuté. Et c'est comme ça que les hommes continuent à chuter parce qu'ils s'attachent à la fausse gloire. Ils s'attachent à la fausse gloire. Et le Saint-Esprit veut nous parler aujourd'hui de nous attacher à la vraie gloire, à l'image de celle du Seigneur. Quelle a été la gloire du Seigneur? La croix. Et dans la croix, il y a quoi? Il y a le brisement, l'humiliation, le fait de s'abandonner entre les mains de Dieu, le fait d'accepter la mort, le fait d'accepter qu'on se moque de toi. Et tout ça pourquoi? Pour la gloire de son Père. Il faisait tout ça pour la gloire de son Père. Donc, quand on sait accepter l'humiliation, accepter de nous soumettre à Dieu, accepter d'être inconnu, accepter d'être faible, accepter qu'on ne parle pas de nous, accepter d'être le dernier, accepter d'être parfois KO, malade, sans énergie, accepter d'être parfois pauvre, emprisonné, mais pour la gloire de Dieu, c'est ça ta gloire. Ne cherchez pas la gloire de Dieu pour tout au mauvais endroit. Vous savez, toutes les autres gloires ne sont qu'une affaire de temps. C'est-à-dire, si quelqu'un aujourd'hui est le meilleur footballeur du moment, ce n'est qu'une affaire de temps. Après 10 ans, il ne sera plus le meilleur. Mais il y a une gloire qui ne passe jamais, c'est celle que Dieu fixe. C'est ça la plus importante gloire. Et chacun est appelé à se constituer cette gloire qui ne passera jamais. Chacun est appelé. Jésus a pris sa gloire. Comment il l'a prise? À la croix. Il a dit, c'est ça, ma gloire. Bientôt, j'entre dans ma gloire. Le jour où je serai crucifié, mais c'est là où je saisirai ma gloire qui ne me quittera jamais. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Et beaucoup se sont fait avoir par le mélange entre la gloire selon le monde avec les choses de Dieu. C'est vrai, selon le monde, il y a aussi la gloire. Mais c'est une gloire qui n'est pas selon Dieu et qui a l'habitude de rivaliser avec la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons recevoir l'enseignement sur la gloire de Dieu, afin que l'on ne se trompe pas. Si Dieu fait des choses grandes avec nous, qu'on ne se trompe pas. Qu'on s'attache à Dieu seul. Nous devons trouver notre gloire dans Dieu lui-même. C'est écrit dans la parole de Dieu que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Se glorifie dans le Seigneur. Donc, ta gloire, c'est dans Dieu lui-même que tu reçois ta gloire. Vous voyez, à la fin, qu'est-ce que Jésus dit? Père, glorifie ton nom. Le Père dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Parce que Jésus sait que sa propre gloire à lui, Jésus, est tirée de la gloire du Père. Et non pas parallèle. Malheureusement, nous, on cherche une gloire parallèle à celle de Dieu. On veut qu'on parle de nous. On veut que ce que nous faisons produise des résultats extraordinaires. Et quand ce n'est pas le cas, on trouve cela pas du tout intéressant. Quelque part, on veut notre gloire. Parfois, c'est les gens même les plus humbles, mais que Satan piège dans la logique du résultat. Il te dit, mais tous les sacrifices que tu fais là, mais ça ne produit rien. Et du coup, même le vrai enfant de Dieu, qui ne cherchait même pas la gloire, qui ne cherchait même pas le succès, se dit, mais oui, mais ça ne produit rien. Mais bien aimé, justement, c'est ça la gloire de Dieu. Faire des choses, faire des sacrifices, travailler parfois pour ne rien produire selon le monde. Là, c'est là que tu es en train de prendre ta gloire que personne ne t'enlèvera au ciel. C'est-à-dire que tu fais les choses pour Dieu et pour Dieu seul. Les résultats, ça console, ça fortifie. Et Jésus a dit une chose. Il a dit, ne faites pas comme les pharisiens. Les pharisiens, ils s'habillent en tenue religieuse extraordinaire. Ils se mettent dans les places publiques. Ils prient Dieu. Et tout le monde les regarde. Ils ont reçu, qu'est-ce que Jésus dit? Ils ont reçu leur récompense. Quelle est leur récompense? C'est que tout le monde les félicite comme étant des bons religieux. Mais vous, vous ne faites pas comme ça. Votre récompense, il dit, quand vous devez prier, vous faites quoi? Vous priez seul à seul avec votre Dieu. Et votre récompense, elle sera où? Au ciel. Voilà ce que Jésus dit. Ça veut dire que, bien aimé, à chaque fois que nous nous laissons piéger par le fait qu'on se sente inutile, par le fait que ce que nous faisons ne semble pas produire du fruit, et qu'on en est triste, quelque part, nous sommes en train de chercher la gloire de qui? Notre gloire. Parce que si tu fais quelque chose pour Dieu et que ça ne produit rien, mais toi tu le faisais pour quoi? Tu le faisais pour Dieu. Bien-aimé, ce que je dis là est très très important pour l'avenir de chacun. C'est très important. C'est ça qu'on a posé à Jésus comme tentation au désert. On lui a dit, mais si tu es fils de Dieu, le jeûne est fini, tu as fait 40 jours, tu as faim. Mais à quoi sert d'être fils de Dieu si on ne peut pas utiliser ces qualités-là de fils de Dieu? Transforme les pierres en pain. À quoi ça te sert d'être fils de Dieu s'il faut que tu meurs de faim? C'est ça que le diable va nous dire. Mais oui, ça fait longtemps que tu es chrétien. Tu as amené combien d'âmes au Seigneur? Bien-aimé, on a entendu ces discours autrefois dans des prédications. Les gens disent, mais tu es chrétien depuis longtemps, tu as amené combien d'âmes au Seigneur? Oui. Et tu as évangélisé qui? Et on nous pousse à de l'activisme pour sentir qu'on a bien servi Dieu. Ah non, non, non. Le voleur à la croix, il a amené combien d'âmes au Seigneur? Mais il s'est donné au Seigneur lui-même. Bien-aimé, il n'y a pas mieux que le Seigneur lui-même pour nous utiliser. Tu as beau faire toutes les activités que tu veux. Dieu, lui, sait utiliser mieux que toi, tu peux le faire. Ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est qu'on se soumette à lui. Et que lui se serve de nous. Toutes les bonnes idées qu'on peut avoir d'évangéliser, de chanter, de faire des CD, tout ça, bien aimé, si ce n'est pas fait selon la volonté de Dieu, tout ça, ce sont des œuvres en paille qui seront consumées un jour. Mais quand on s'offre à Dieu, comme Abraham qui vient offrir son fils Isaac, sans comprendre pourquoi. Parce qu'on te dit, mais c'est lui le fils de la promesse. Mais ben c'est lui que je te demande aussi de sacrifier, de tuer. Il ne comprend pas, mais il se soumet selon l'intelligence. C'est quelque chose d'inutile et même de contre-productif que de sacrifier Isaac. Mais pour quelqu'un qui cherche la gloire de Dieu, la véritable gloire, il préfère faire la volonté de Dieu. Il sait que dans la volonté de Dieu se trouve la vraie gloire. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, sortons de la tristesse, sortons de l'abattement. Dieu sait se glorifier en nous plus que nous-mêmes. Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Avec la puissance de Jésus, avec son discours, est-ce que c'était à la croix qu'il devait être? Mais non, selon la logique humaine. Même Pierre a refusé quand Jésus dit « je dois être crucifié ». Pierre dit « mais ça sert à quoi pour quelqu'un qui sait bien parler comme ça, qui sait guérir n'importe quelle maladie ?» Ça sert à quoi qu'il se retrouve à la croix? Et chaque jour, nous-mêmes, on se dit, mais ça sert à quoi que je sois au chômage? Ça sert à quoi tout ce temps passé à la prière et que la France ne change pas encore? Ça sert à quoi? Bien-aimé, dans le système de Dieu, ce n'est pas ça sert à quoi qui compte. C'est qui c'est que tu sers, c'est ça qui compte. Tu sers qui? Ce n'est pas ça sert à quoi. C'est qui que tu es en train de servir. Et Satan vient dire à Jésus en deuxième tentation, il lui dit, mais je peux te donner tous les royaumes. Tu en es digne puisque tu es le Fils de Dieu. Mais quelle a été la réponse de Jésus? Ce qui est le plus important, c'est quoi? Quelle a été la réponse de Jésus? Tu serviras l'Éternel ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça a été la réponse de Jésus. Satan va nous dire, mais oui, mais tu es oint, tu es appelé, Dieu ordonne que vous soyez puissants, mais regardez, vous produisez quoi? Regardez, vous vous réunissez, vous êtes au nombre de combien? Voilà. Mais quelle a été la réponse de Jésus? Parce que Satan lui dit, mais t'es fils de Dieu, mais les royaumes là, moi je les gère. Mais et c'est logique que je te les donne, mais il suffit seulement que tu te prosternes devant moi. Bien-aimé, Jésus a dit, c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de servir Dieu. Et Dieu seul. Ne pas servir un projet, mais servir Dieu. Est-ce à dire, frères et sœurs, que nous n'avons pas de projet avec le Seigneur. On en a, puisque Matthieu 28, 18, 20 dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Marc 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Allez prêcher, Marc 16, 15, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On a des projets, mais dans ces projets-là, nous ne servons pas ces projets-là, mais nous servons le Seigneur. C'est ça qui est important. C'est servir le Seigneur et lui seul, pas le projet. Quand le Seigneur dit à Abraham que Isaac, c'est son projet, si Abraham servait le projet Isaac, il n'allait pas l'amener pour le tuer, mais il servait le Seigneur. C'est des gens qui avaient compris, bien aimé, je dis souvent aux chrétiens d'aujourd'hui qui se croient forts, hein, je dis, quand vous voyez un nom que Dieu a écrit dans la Bible comme quelqu'un de valable, attention, ne critiquez pas ces gens-là. Attention, ce sont des gens qui ont fait des sacrifices pour Dieu que toi, tu ne peux même pas faire peut-être 15%. Quand quelqu'un, on lui dit, mais le projet, c'est Isaac. Ensuite, on lui dit, va tuer Isaac. Mais c'est contradictoire. Mais il a fait comme Jésus, mais avant même le temps. On ne sert que Dieu et Dieu seul. Ce n'est pas le projet que je sers. C'est Dieu que je sers. Bien-aimé, et Satan va te dire, mais oui, mais tu es fatigué, tu es sans force. Appelle pour dire que tu ne prêches pas, que quelqu'un d'autre te remplace. Bien-aimé, nous ne servons pas la force physique. Nous servons le Seigneur. J'appellerai si c'est le Saint-Esprit qui me dit que je ne dois pas prêcher. Mais si c'est parce que mon corps me le dit, je n'obéis pas. Tu serviras l'Éternel, tu l'adoreras, tu le serviras lui seul. Nous devons le servir, faible, fatigué, rempli de problèmes, comme dans la joie, rempli de richesses. Ça ne doit pas changer puisque lui ne change pas. La gloire de Jésus est la gloire de son disciple. Quelle a été la gloire de Jésus ? La croix. Parce que c'est à la croix que Jésus se rabaisse au maximum. On va le lire à la fin. Commençons d'abord par Jérémie 9, 23, 24. Pour expliquer c'est quoi la gloire selon Dieu. Déjà, on a expliqué la gloire selon le monde. Je répète, c'est tout ce qui est éclat, puissance, beauté, force, talent qui nous attire une certaine renommée. C'est ça la gloire. Dieu aussi a cette gloire-là. Mais lui, il est plus que cette gloire-là parce que lui, il a une gloire qui est éternelle et parfois invisible. Alors que la gloire selon le monde va avec la visibilité, la gloire selon Dieu ne va pas toujours avec la visibilité. Et même dans le monde, il peut y avoir des gens qui ont une gloire, mais qu'ils ont cachée. Et le jour où ils mettent la veste de général avec les galons, ah, tout le monde s'incline. Mais Dieu, c'est encore plus que cela. Lui, il a une gloire éternelle. Et il peut la cacher, de sorte qu'on se trompe sur lui. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu connaît la gloire de Dieu aussi. C'est ainsi que Jésus, à la croix, il était dans sa gloire. Et le centenier romain a reçu une révélation expresse de Dieu. Il a dit, celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Alors qu'il est à la croix, et quand Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir sa gloire cachée. Est-y attaché. C'est à la croix encore qu'un voleur reçoit la révélation pour savoir que celui-là est le Fils de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, dans ta gloire. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, apprenons à connaître la gloire véritable. Ne nous laissons pas tromper par la gloire visible, humaine, de ce monde qui passe. Attachons-nous à la gloire véritable qui vient de Dieu et qui finit par quoi? Par glorifier Dieu seul. Tu le serviras lui seul. Voilà, nous lisons Jérémie 9, 23, 24.
Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre.
Amen. Vas-y.
Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel.
Amen. Amen. Et il dit, c'est pas la force qui doit faire votre gloire, ni la sagesse, l'intelligence, ni la richesse. Tout ça, c'est rien. Ça sert à quoi la richesse quand on est dans un cercueil? Ça sert à quoi la richesse quand on a 90 ans? Ça sert à quoi? Les milliards, tu as 95 ans, ça te sert à quoi? La force, ça sert à quoi quand on est dans un hélicoptère qui tombe? Tu peux mesurer 2 mètres, avoir les muscles les plus puissants, mais tu es dans un hélicoptère qui tombe, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? La sagesse. Lorsque ça te conduit à devenir homosexuel, ça te conduit à devenir humaniste anti-Dieu. Ça sert à quoi ta sagesse? Comment ta sagesse n'a pas pu te faire comprendre que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre, alors que c'est si évident à l'homme simple? Dieu dit, tout cela, c'est notre gloire selon le monde. Les gens ont de la gloire par leur intelligence, leur sagesse, leur force, leur beauté, leur richesse, leur inventivité, leur titre, leur pouvoir, c'est ça qui fait leur gloire. Mais Dieu dit, mais tout ça c'est vain. La vraie gloire, c'est de me connaître. Quand tu connais Dieu, ça, c'est, tu commences à entrer dans la vraie gloire. Ce n'est pas avoir tout le reste des choses. Parce qu'en fait, Dieu, c'est qui? Dieu, on l'appelle aussi l'Éternel. On l'appelle l'Éternel. C'est-à-dire qu'il ne change pas, il ne bouge pas. Donc, quand tu le connais, quand tu te branches à lui, tu es branché à l'éternité, à la vérité, à la pureté, à la vraie gloire. Parce que tout ce qui n'est pas Dieu se flétrit et pourrit. Seul Dieu demeure. Donc, le connaître, c'est se brancher à lui. Donc, il dit, mais là, c'est la vraie gloire. Là, c'est la vraie gloire. Ce n'est pas tout le reste, toutes les richesses, toutes ces choses-là. Et Satan va vouloir nous distraire pour nous faire croire que plus un bâtiment d'église est grand, c'est ça qui fait la force de l'église. Plus un chrétien ou un pasteur a de l'argent, c'est ça qui fait sa gloire. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas, est-ce que c'est moi qui dis? Nous tous nous lisons. Ce n'est pas la richesse qui fait la gloire. Ce n'est pas la sagesse qui fait la gloire. Mais c'est connaître Dieu qui est la vraie gloire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit clairement. Mais malheureusement, même dans les milieux chrétiens, on apprend aux gens que la gloire, ce sont ces choses-là que Dieu réprouve comme étant des sujets de gloire. Mais c'est ce qu'on apprend aux chrétiens, que c'est le nombre que tu draines qui fait ta gloire. C'est la sagesse. Oh, il a des révélations extraordinaires. Non, ce n'est pas ça qui fait la gloire. Ce qui fait la gloire, c'est la vraie connaissance qui vient de Dieu. Et elle est souvent simple. Elle est très simple. Elle est très, très simple. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir prêcher sur l'ange Michel, expliquer l'ange Gabriel, ensuite faire un lien de mathématiques avec tout ça. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est de présenter Dieu tout simplement tel qu'il est. Tel qu'il est. Et Dieu est capable de se présenter simplement à tout le monde. Prenons Dieu dans sa simplicité. C'est ça la vraie intelligence. C'est ça la vraie gloire. Connaître Dieu. Ce n'est pas l'argent. Et aujourd'hui, combien de chrétiens pensent que Dieu n'est pas avec eux parce qu'ils n'ont pas d'argent? Mais nous venons de lire. Tout ça, ce n'est pas la gloire. Que celui qui veut se glorifier ne se glorifie pas de ces choses-là. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais il dit ça parce qu'il est pauvre. Mais non, bien-aimé, nous disons ça parce que c'est écrit. Un jour, que ce soit ici sur terre, que ce soit dans le ciel, on saura qui est vraiment riche. Le vrai riche. C'est ce que Jésus dit dans Luc 12. C'est celui qui amasse des biens au ciel. C'est lui le vrai riche. Là où il n'y a pas de voleur qui puisse voler. C'est celui-là. Satan a envoyé des infiltrés dans nos églises pour nous faire croire que la gloire, c'est l'argent. La gloire, c'est la sagesse humaine. Il y a des gens qui sont devenus des coachs spirituels. C'est la sagesse humaine. Quand on lit les Écritures, c'est pas la logique de coach spirituel. C'est Dieu qui parle. C'est les Écritures. C'est ça, c'est la connaissance de Dieu qui est de la gloire. Oh, un tel coach spirituel coach bien pour le mariage. Et les gens écoutent bien les prédicateurs qui parlent régulièrement du mariage. Alors qu'on nous a envoyé parler de la Bible, des Écritures. Mais bien sûr, il y a aussi le sujet du mariage dedans. Mais le sujet principal, c'est Jésus. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher que Jésus est mort et ressuscité afin que nous recevions le pardon des péchés et la vie éternelle. Voilà le sujet principal. Je dis, ah, mais oui, mais lui, sa prédication est trop simple. Mais oui. Mais c'est Dieu lui-même qui se présente aux humains. Mais les hommes préfèrent ce qui est compliqué. Ils ne veulent pas la simplicité de Dieu. Connaître Dieu, c'est ça la vraie gloire, bien-aimé. Que personne ne nous trompe. Combien de gens ont été riches? Bien-aimé, nous, on a un certain âge. On a connu des riches. On a connu des hommes forts, les Mohamed Ali. On a connu des grands joueurs. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de faire même une course de 100 mètres. Parce que c'est une gloire passagère. C'est une petite gloire. On a connu des grands acteurs qui avaient des visages angéliques, des actrices et des acteurs. Mais aujourd'hui, quand vous regardez leur visage, même parfois, un fruit qui se fane est plus beau que leur visage aujourd'hui. Parce que c'est des gloires passagères. La vraie gloire, c'est connaître Dieu. Que personne ne vous trompe. Nous-mêmes, dans nos vies, on a connu de tant de succès dans des domaines. Mais on a après connu aussi de tant de difficultés, de malheurs. Ce n'est pas un temps de gloire humaine apparent qui est important. C'est être branché à la gloire définitive céleste. C'est ça qui est important. Nous lisons pour les chrétiens Luc 10, 17 à 20. Luc 10, 17 à 20.
Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Amen, amen. Les disciples sont de retour, disant, Seigneur, oh, on a fait des exploits. Vous savez, à l'époque, un des grands problèmes que les gens rencontraient, c'était le fait de chasser les démons. Alors les disciples expérimentent que, au nom de Jésus, ça a été facile de chasser les démons. Ils reviennent et disent, oh Seigneur, même les démons ont obéi. Oh Seigneur, c'est extraordinaire. Jésus dit, oh, je bénis Dieu pour ce qui s'est passé. Et je voyais même Satan tomber comme une étoile filante. Mais, mes enfants, le plus important, c'est d'être avec Dieu. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Frères et sœurs, ce n'est pas moi qui parle là. Nous lisons ensemble. Parce que les gens vont dire, il est comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. C'est les Écritures qui parlent. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Ce n'est pas ça qui doit faire votre puissance, votre gloire. Mais c'est le fait que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Vous êtes des gens du ciel, des élus, des gens du royaume de Dieu. Ça, c'est plus important que tout. Être branché à Dieu. Le salut, c'est plus important que tout. C'est plus important qu'être un grand évangéliste. C'est plus important qu'être un grand apôtre. Le salut, c'est-à-dire être un citoyen du ciel, c'est plus important que tout. Jésus a dit une chose. Il a dit Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes sur terre. C'est le plus grand. Donc, il est le seul à baptiser le Fils de Dieu. Il est le seul à précéder le Fils de Dieu. Au fait, Jean-Baptiste est le seul devant qui Jésus s'est mis en position d'infériorité en le laissant le baptiser spirituellement. Personne n'aura plus cette position-là. Mais il dit dans le royaume de Dieu, c'est le plus petit. Il dit, toute la gloire de Jean-Baptiste en tant qu'humain, c'est rien par rapport à la gloire d'être un fils de Dieu. C'est rien par rapport au fait de recevoir le salut en Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de mettre leur salut en danger en recherchant la gloire terrestre. Même dans le milieu de Dieu, dans le milieu des chrétiens, ils veulent qu'on reconnaisse leur travail. Ah, mes frères, tu chantes bien. Ah, mes frères, tu composes bien. Ah, mes frères, tu prêches bien. Ah, mes frères, ce que tu as fait là est bien. Si on ne leur dit pas ça, ils ne sont pas à l'aise. Ah, mes frères, il y a beaucoup de vues hein, par rapport à l'intervention que tu as faite sur YouTube. Ah, tu vois, la personne est dans la joie. Mais Jésus dit, oh, mais tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Vous savez, le Seigneur peut faire qu'un animal ait de la gloire. On a vu lors d'un mondial de football, il y avait quel animal qui avait la gloire? Il y avait une pieuvre, je crois, en Chine. Donc les gens suivaient cette pieuvre-là, je crois, avant chaque match, pour voir son pronostic. Un animal comme une pieuvre, ou bien dans d'autres pays, c'était peut-être une chèvre qui donnait le pronostic des matchs. Dieu peut faire qu'un animal comme ça ait de la gloire, que tout le monde le suive sur YouTube. Nous, on n'est pas trop dans ces réseaux sociaux-là, mais il y a une fois, il y a un moment donné, il y avait un chat qui avait du succès dans les réseaux sociaux. Même, je me souviens, une époque sur Twitter, c'était un hibou aux États-Unis. Donc, il y a un type, il y a un hibou qu'on cherchait dans un parc qui faisait peur aux gens. Et donc, le fait que la police le cherchait sans le trouver, ça a fait du succès. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un compte Twitter avec le nom de cet hibou-là. Il a mis un nom. Et tout le monde suivait ce compte Twitter. Et ça passait même aux infos. Aujourd'hui, voilà ce que l'hibou a dit. qu'on ne le retrouvera pas. Et cet hibou-là connu un grand succès jusqu'à ce qu'on l'attrape. Donc, il a même eu un secrétaire pour lui sur Twitter, donc un hibou sur Twitter. Donc, il y a quelqu'un qui écrivait en son compte, sans que lui-même demande. Mais si Dieu est capable de rendre un hibou célèbre comme ça, donc tout ce qu'on peut... Ça veut dire si Dieu veut te rendre célèbre, c'est rien du tout. Tout ça, c'est petit pour Dieu. Il est trop fort, Dieu. Voilà comment il a rendu le soleil célèbre. Vous savez que le soleil ne fait pas partie des grandes étoiles de l'univers. C'est vraiment petit parmi les autres étoiles. Mais c'est lui qui est le plus célèbre. Voilà. C'est comme ça. Vous savez, il y a une planète comme Jupiter qui a plus de 50 satellites. Mais nous, on n'a qu'un seul satellite, la Lune. Mais c'est la Lune qui est plus célèbre que tous les autres satellites qui sont plus grands, plus extraordinaires. La célébrité, tout ça, c'est petit pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est de gagner le cœur d'un homme. Ça, c'est difficile, même pour Dieu. Même pour Dieu. Ça, c'est ça qui fait sa gloire. Quand il peut sauver un homme, c'est pourquoi il est écrit dans la Bible, il y a de la joie au ciel lorsque une seule personne se donne à Dieu. Que Dieu gagne un cœur, même pour lui, c'est un sujet de gloire. Le salut, bien-aimé, c'est d'une gloire extraordinaire. C'est pourquoi il y a la fête au ciel quand il y a une âme qui est sauvée. Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. L'apôtre le dit dans Philippiens 2, veillez à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que c'est la chose la plus précieuse qui existe sur la terre. Après Dieu, c'est le salut d'un homme. C'est le salut d'un homme. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Notre gloire, c'est d'être sauvé par Jésus. C'est Jésus qui est notre gloire. Et je me rappelle de mon ami David qui dit dans le psaume 3, « Ô Seigneur, tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. » Notre gloire, c'est Dieu lui-même. De connaître Dieu, d'être choisi par lui, d'être sauvé par lui, c'est ça notre gloire. Maintenant, d'une manière concrète dans la vie de tous les jours, comment nous avons notre gloire à l'image de la gloire de notre Maître? Nous lisons dans Philippiens 2, 5 à 11, déjà qu'on comprenne où est la gloire de notre Maître. Quand on comprend où se trouve la gloire de Jésus, il a dit « Le disciple n'est pas plus grand que le Maître ». Si tu comprends déjà où Jésus tire sa gloire, toi aussi tu sauras où tirer ta gloire, vrai ou faux? Nous lisons Philippiens 2, 5 à 11.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Amen. Est-ce qu'on peut commencer à partir du verset 3 ?
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Amen.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
On peut s'arrêter là. Je vais lire en français courant. Ne faites rien par esprit de rivalité. On apprend, ah mais une telle église a acheté un grand terrain. Allez, vous ici, vous commencez à trembler. Ah, non. Si une église a acheté un grand terrain, ce sont nos frères. Amen, nous disons. Nous bénissons le Seigneur. Une telle chorale est passée à la télé pour glorifier Dieu. Mais gloire à Dieu. Ah, mais nous aussi, on va essayer de contacter Antenne 2. Non, enfin, aujourd'hui, c'est comment? C'est France 2. Non. Nous servirons le Seigneur et lui seul. C'est le Seigneur que nous servons. Nous ne servons pas un projet. Nous avons des projets, mais nous servons le Seigneur. C'est le Seigneur qui ouvre les portes et qui conduit dans ces projets-là. Amen. N'oublions pas, bien-aimés. Cherchons la gloire du ciel, pas la gloire d'en bas. Et après qu'on a dit « ne faites rien par esprit de rivalité », on dit chez mon bien-aimé Boris, c'est écrit « par vaine gloire », c'est ça, hein? Ni par vaine gloire. On nous dit donc de ne pas chercher des gloires vaines. Les gloires de la terre sont vaines. On félicite, ah, mais on a un pasteur qui prêche dans telle chaîne de télévision. Non, ça, c'est des petites choses. Est-ce que l'apôtre Jean a prêché dans une télévision? Mais qui a reçu la grande révélation de l'Apocalypse? Qui a vu le Seigneur dans sa gloire? Tout ça, c'est petit, ces histoires-là, de les vaines gloires terrestres. Et dans la version française courante, c'est écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. » Désir de briller, désir de briller, d'être quelqu'un, d'être reconnu, d'être félicité pour la chose que tu as faite pour le Seigneur. Tu veux que les gens reconnaissent. Il te félicite pour la chaîne YouTube. Comment tu gères ça? Tu veux qu'on te félicite pour le site internet? Tu veux qu'on te reconnaisse? Non, bien-aimé. Pour ta prédication, tu veux que les gens disent que ça les a touchés? Ne cherchons pas à briller. Cherchons à servir le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Et concrètement, ça va nous amener à quoi? Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Donc, on se mettra tout le temps à la dernière place. Tout le temps. Tu te mets tout. C'est comme ça que tu serviras vraiment Dieu. Mais dès que tu chercheras une place au-dessus de la dernière, tu ne sers pas Dieu. Dès que tu chercheras une reconnaissance, tu ne cherches pas, tu ne sers pas Dieu. Verset 4. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Voilà, c'est tout. Là, on est dans le concret. Comment rechercher sa gloire? Moi, je dis, mais là, quand tu fais de telles choses, Tu es en train de prendre ta gloire que tu retrouveras au ciel. C'est écrit que cette gloire-là paraîtra au jour où Jésus lui-même paraîtra dans sa gloire. Parce que Jésus n'a pas encore paru dans sa gloire. Un jour, il viendra dans sa gloire. Ce jour-là, tout ce que toi, tu aurais pris comme gloire par ton humilité, par ta simplicité, par le fait que tu te dépouillais, tout ça paraîtra au jour où lui aussi quittera son état de gloire invisible pour entrer dans la gloire visible, tout ce que nous, on est en train d'amasser comme gloire par notre invisibilité, par notre humilité, par notre dépouillement à cause du nom de notre Papa, tout ça paraîtra le jour où Jésus aussi paraîtra dans sa gloire. Et c'est là que beaucoup diront, mais je ne mérite pas une telle gloire. Mais Dieu te dira, mais non, c'est ce que tu as fait sur terre. Tu as amassé cette gloire sur terre. Parce que tu as accepté qu'on t'injurie à cause de mon nom. Tu as accepté d'entrer en prison à cause du nom de ton Père. Tu as accepté qu'on ne t'applaudisse pas à cause du nom du Seigneur. Et aujourd'hui, voilà, c'est ta gloire. Et cette gloire-là, personne ne l'enlèvera, c'est fini, éternellement. C'est comme ça. C'est ainsi qu'il y aura des étoiles qui brilleront, des gens brilleront comme des étoiles, comme dit le Daniel dans sa prophétie. Maintenant, quelle a été la gloire de notre Seigneur? La gloire de notre Seigneur a été le fait, verset 6, Boris, on peut relire.
Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu.
Il était l'égal de Dieu, mais il n'a pas trouvé ça, il n'a pas cherché à défendre cette égalité avec Dieu. Alors que Adam n'était pas égal avec Dieu, il était inférieur et de loin inférieur, mais il a voulu être l'égal. Jésus, lui, il était égal, mais il n'a pas cherché, n'en a pas fait un projet d'afficher cette égalité, de vivre cette égalité. Voilà. Donc, à chaque fois que tu veux défendre ton statut de pasteur, d'homme intelligent, d'homme diplômé, de ceci, tu es en train de servir ta gloire. Mais c'est une vaine hein, gloire. Nous, on te propose la vraie gloire. Sers pour la vraie gloire. Celle qu'on obtient en se dépouillant de notre force. Ce qui faisait la force de Jésus, c'était l'égalité avec son Père. Il n'a pas cherché ça. Verset 7. Qu'est-ce qu'il a fait?
Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme.
Il s'est dépouillé. Donc, il a accepté, bien aimé, quand on dit il s'est dépouillé, ça veut dire que Jésus pouvait résister au dépouillement de son papa. Mais il l'a laissé faire. Donc, en quelque sorte, c'est lui-même qui s'est dépouillé. Il a accepté. Bien aimé, je sais que ça, c'est difficile pour nous, même de nous dépouiller. Sauf certains cas où le Saint-Esprit peut te dire, ben, ce que tu as dans la poche, tu donnes à tel. Bon, donc là, quelque part, ton bras va agir. Mais pour, en général, c'est Dieu qui va nous mettre dans des situations difficiles pour nous dépouiller. Et on a l'autorité de dire oui ou non. Et quand on dit oui au dépouillement du Seigneur, bien aimé, c'est là que nous sommes en train de construire notre gloire. C'est parce que c'est comme ça que Jésus construisait sa gloire. En se dépouillant, en devenant semblable au plus petit des hommes. C'est-à-dire d'abord, semblable à un homme, lui qui vient du ciel. Deux, mais au moindre des hommes. Au moindre des hommes. Bien-aimés, je nous dis, c'est ça le véritable enseignement. Vous êtes conscient que ça ne vient pas de moi, puisqu'on est en train de lire, je ne fais que commenter, mais et je ne m'éloigne pas de ce qui est écrit en commentant, comme si j'avais une intelligence supérieure. Pas du tout, je suis en train de lire. C'est écrit, comportez-vous, hein, en français courant, entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Il n'a pas voulu forcer. On veut forcer pour que les gens nous écoutent. Forcer pour que les gens nous obéissent. Forcer pour que les gens... Non. On n'a pas forcé. On a à servir Dieu, à faire ce qu'il nous demande. Et ça passe parfois par un dépouillement où tu te dis, mais comment malgré tout ce que je fais, il n'y a pas de résultat? Mais c'est ton dépouillement. Verset 8.
Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Il s'est humilié jusqu'à être le moindre des hommes, donc en mourant. Là. Parce que pourquoi Paul précise la mort de la croix? Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, « Maudit quiconque est pendu au bois ». Donc c'est-à-dire que ce n'était pas une mort honorable, c'était une mort sale. Et c'est ce que Jésus-Christ a vécu, une mort sale. Maudit quiconque est pendu au bois. Considéré parmi les criminels. On l'a pendu au bois comme un criminel. C'est ce que Jésus-Christ a vécu. Bien-aimé, Jésus a dit quoi? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si Jésus est passé par cette voie-là Pour construire quoi? Eh bien, construire ce qu'on va lire, Boris, là, pour finir. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti jusqu'à la croix?
Verset 9.
À la suite.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Amen, amen, amen. C'est pourquoi j'aime le chant. À Dieu seule la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Bien-aimé, c'est à la croix que le monsieur a eu toute sa gloire. Lui-même, il dit, mon moment est venu d'aller prendre ma gloire. C'est à la croix que c'est pourquoi Dieu a souverainement élevé son nom. Bien-aimé, vous vous rendez compte que lui qui n'a pas voulu être forcé l'égalité avec Dieu, Dieu a mis maintenant son nom à lui, il l'a mis au-dessus. Quand j'étais nouveau chrétien, je ne comprenais pas pourquoi dans l'église, on parlait tout le temps de Jésus, on chantait Jésus, on parlait, jusqu'au jour où j'ai lu Philippiens 2. J'ai dit, ah bon, c'est le papa lui-même qui a décidé que c'est le nom de Jésus qui sera placé au-dessus de tout nom. Amen. Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il a servi l'Éternel, il s'est dépouillé. Bien-aimé, si tu veux la gloire, imite Jésus. Et c'est une gloire qui nous attend au ciel. Ce n'est pas une gloire éphémère de ce monde où on nous félicite. Au contraire, dans ce monde, nous serons considérés comme des inconnus, mais nous sommes connus de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Bien-aimé, est-ce que toi, tu connais le cousin de la reine d'Angleterre? Tu ne le connais pas? Mais lui, quand il vient au château de Windsor, quand il s'approche, le garde du corps ouvre déjà. Vous savez, un jour, un président, j'ai oublié le nom de ce président-là, il recevait des gens à la Maison Blanche, il y a 2 siècles environ. Et il y a les gens qui faisaient la queue pour être reçus par le président. Il y a un garçon de 10 ans qui arrive, qui dépasse toute la queue, et quand il s'approche, le monsieur, le portier ouvre déjà la porte, il les laisse entrer. Mais les gens disent, mais c'est qui ce petit garçon qui nous grille tous et qui entre comme ça? On dit, mais c'est le fils du président. Bien aimé, c'est le fils du président. Toi, tu ne le connais pas, mais le président le connaît. Le monde ne va pas nous connaître, mais Jésus nous connaît. Parce qu'il sait ce que nous faisons pour lui. C'est le plus important, que Dieu nous connaisse. Bien aimé, Dieu veut nous dire aujourd'hui que le plus grand public qui existe, c'est lui-même. Ça dit, mais bien aimé, à quoi ça sert? À quoi ça sert que moi, je te dise, je prends ton CV, je dis, Boris, ton CV pour devenir ministre, ben, il est extraordinaire. Même si moi, je dis, il est extraordinaire, qui décide? C'est Macron. Même si nous tous ici, on est 50, on dit, Boris, mais ton CV, c'est extraordinaire. Même si on est 10 000 à dire, mais Boris, ton CV, il est extraordinaire. Mais quand Macron va dire, c'est un CV qui est zéro, ben, qui est-ce qui va compter? C'est ce que Macron va dire. C'est lui qui nomme le ministre. Donc, à quoi ça sert que l'humanité entière dise, oh, mais t'es le plus beau, t'es le plus intelligent, t'es un pasteur extraordinaire. Mais le vrai public, c'est Dieu lui-même. Le vrai juge. Mais lui, quand il va dire, je ne vous connais pas. Ce jour-là, toutes les félicitations que tu as reçues sur terre, jet privé, robinet en or, tout ça, le jour où Dieu dit, je ne te connais pas, tout ça, toute ta gloire terrestre, c'est là qu'elle se dissout. Dieu veut nous dire aujourd'hui que c'est lui le grand public, le véritable juge, c'est lui. C'est lui quand il dit que tu es glorieux, tu l'es vraiment. Quand il dit que David, c'est selon l'homme selon mon cœur, bien-aimé, vous avez beau critiquer David à cause de l'histoire Bathsheba, vous perdez votre temps. Si vous lisez David, son histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a peu de gens qui sont spirituels comme lui. On veut critiquer Joseph comme quoi il a été orgueilleux. Où est-ce qu'il a été orgueilleux? Ce sont des gens qui ont bâti leur gloire sur terre pour vivre ça au ciel. Mais de la terre, nous voyons déjà des traces de leur gloire. Nous voyons Joseph qui fait 20 ans en prison, 20 ans en exil, qui ne se plaint pas. Tout ça parce qu'il croyait en l'Éternel. Jésus-Christ nous montre l'exemple. Du coup, bien-aimés, nous sommes appelés à quoi? Nous sommes appelés à nous dépouiller. Nous sommes appelés à nous humilier. Nous sommes appelés à manifester quoi? La foi, le contraire de la vue. Nous sommes appelés quoi? À faire quoi? À rechercher plutôt la volonté de Dieu. C'est dans ça que nous bâtissons vraiment la vraie gloire. Parce que réfléchissez avec toute la puissance de Jésus. Si on suivait la logique humaine, qu'est-ce qu'il va faire à la croix? C'est pourquoi Pierre a dit non. Jésus a dit c'est ça qu'il faut. Tu ne comprends pas, mais c'est ça qu'il faut. C'est comme ça que moi je retire ma gloire. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, dans sa gloire. Et nous verrons cela bientôt. Nous verrons cela. On verra qui avait raison. Celui qui va à la croix ou bien ceux qui restent dans leur richesse, dans leur fatuité, dans leur orgueil. On saura bientôt. Bien-aimés, on saura qui a fait le bon choix. Le choix de s'humilier, de croire en Dieu. Le choix d'attendre l'action divine. Le choix de persévérer dans le Seigneur, dans une relation d'amour. Que Satan ne nous trompe pas dans une logique de résultat et nous crée un abattement. Tu te dis, mais je sers à quoi? Ça produit quoi, ma foi? Ça... Tant que tu obéis à Dieu, tant que tu te soumets à sa volonté, tant que tu l'aimes et tu vis par amour pour lui, par obéissance à lui, sache que ça produit des choses que tu ne peux pas imaginer. Dieu ne nous montre pas parce qu'on tomberait dans l'orgueil. Job ne pouvait pas savoir que sa fidélité était une lutte céleste. Une lutte céleste au niveau de Dieu et Satan. Une très, très grande lutte qui engageait. Vous savez, au niveau de Dieu et Satan, donc ça engage le nombre d'anges quand ça engageait. Tout ça, parce que tous les anges étaient au courant qu'il y a une lutte là, sur Job. Il va tenir ou pas? Tout le monde était au courant, mais Job ne le savait pas. Il ne le savait pas. On se dit, mais pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi toutes ces épreuves? Quelle est mon importance dans le système général de Dieu? Je ne suis rien du tout. Non, donc, ce n'est pas les épreuves de Dieu. Ça, c'est mes propres problèmes. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, tu n'as plus tes problèmes. Tu ne fais que vivre les problèmes de Dieu. Vous allez dire, oh, mais d'où ça vient? Ça vient de la Bible, Luc 22, 28. Luc 22, 28. C'est parce qu'on se dit, mais je suis comme une fourmi. Quel impact mes problèmes, mes épreuves ont dans le royaume de Dieu? Ça a un grand impact. Tu ne connais pas les luttes qu'il y a dans le royaume, dans le monde invisible. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas.
Luc 22, verset 28. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves.
Oui, on continue.
C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur.
Amen, 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 amen. Donc ça veut dire que c'est le même parcours. Comment le Père dispose à la faveur de Jésus à cause de ce qu'on a lu dans Philippiens 2. Maintenant, comment les apôtres ont obtenu leur gloire pour être de ceux qui vont partager le règne avec le Seigneur? Par quoi?
Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves.
Par les épreuves du Seigneur. Ce n'est pas par leur belle prédication. Ce n'est pas parce qu'ils ont guéri les malades. Pas du tout. C'est en participant aux épreuves du Seigneur que ces gens-là ont acquis l'autorité d'être sur des trônes pour juger les tribus d'Israël. C'est les épreuves du Seigneur. Et vous allez dire, mais oui, mais ça c'était à leur époque. Et nous, quelles sont les épreuves du Seigneur? Mais à chaque fois que tu as des positions, que tu as une marche, que tu acceptes à cause de Jésus, à cause du nom de l'Éternel. À chaque fois que tu t'humilies à cause du nom de Jésus, à chaque fois que tu viens prier Dieu parce que tu sais que c'est ça que tu dois faire. À chaque fois que tu fais tout ça, tu es en train de persévérer dans les épreuves du Seigneur. À chaque fois que tu refuses d'être dans le compromis, parce que tu veux être fidèle à ton Dieu, tu es dans les épreuves du Seigneur. À chaque fois, tu acceptes d'être faible, mais de servir quand même Dieu. Tu es dans les épreuves du Seigneur. C'est au nom du Seigneur que tu fais tout ça. Tu participes aux épreuves de Jésus. Et c'est ça qui fait que il est écrit donc, le Seigneur a disposé, et de même que le Père a disposé du royaume à ma faveur, de même j'en dispose pour vous. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Ces gens-là ont conquis tout ça par les épreuves. On est en train de lire ensemble, ils n'ont pas conquis tout ça par leur miracle, par leur prédication dont il parle dans Luc 10. Non, c'est par les épreuves. Jésus leur dit, ce sont ces épreuves-là. Quand on m'arrête, mais vous continuez de croire en moi. Quand les gens m'injurient, quand on vous a exclu des synagogues à cause de moi, mais c'est là que vous gagnez votre gloire. C'est ça, bien-aimé. Nous gagnons notre gloire à chaque fois que tu évangélise, il n'y a pas de résultat. C'est là que tu gagnes ta gloire. Mais si tu évangélises et que les résultats sont magnifiques, en général, qu'est-ce qui se passe? Ça te fortifie, non? Ça te console, ça te donne une puissance. Mais ça te diminue en gloire. Est-ce à dire que maintenant, on ne veuille pas de résultats? Non. Maintenant, on comprend que quand il y a des résultats, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me préoccuper d'avoir servi Dieu et non des résultats. Si les résultats sont très bons, je dis, Seigneur, à toi seul la gloire. Moi, je n'ai été qu'un serviteur inutile. C'est là que tu conserves la gloire pour le ciel. Mais si les résultats sont bons, tu passes ton temps à raconter les résultats partout. Tu oublies celui que tu as prêché. Tu racontes plutôt tes résultats là. Bien-aimé, ça doit pousser à réfléchir. Bien-aimé, vous souvenez pas quand quelqu'un était guéri par le Seigneur lui disait quoi? Ne raconte pas. Vous pensez c'était pourquoi? Parce que si on faisait sa publicité, ça diminuait sa gloire. Ne raconte pas. Lui devait le dire, ne va pas faire ma pub. Souvenez-vous, quand il a ressuscité Lazare, quelle prière il a faite? Il a dit, je prie pour que les gens sachent que ça vient de toi. Parce que si je le ressuscite sans parler de toi, la gloire va revenir à qui? À moi. Mais je prie, parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. Si je veux le ressusciter, je veux le ressusciter. Mais en priant à toi, papa, les gens savent que c'est toi mon papa qui est en train de faire. Dans Jean 12, quand il a dit « Je vais aller dans ma gloire », il finit par dire quoi? « Père, glorifie ton nom. » Tout ce que nous avons à faire doit aboutir à ce qu'on glorifie notre papa. Toi, tu te caches, mais on glorifie le Seigneur. On ne fouille pas les résultats, bien-aimés. Vous me connaissez, j'aime, je veux sauver l'humanité entière. Mais, il y a plus important que ça, c'est servir l'Éternel. Et lui seul, le servir lui seul, dans ce projet-là, c'est servir l'Éternel. Et quand il y a des résultats, on se cache, on rend gloire à Dieu. Quand les apôtres, les gens venaient se prosterner devant eux, ils déchiraient les vêtements, ils disaient, non, regardez, on a des os comme vous. On a des muscles comme vous. Nous sommes des humains. Quand les apôtres voulaient se prosterner devant un ange, l'ange disait, je suis un serviteur. Prosterne-toi devant Dieu. À chaque fois que nous prenons des félicitations, nous diminuons notre gloire. Quand quelqu'un dit « j'ai été touché », tu dis « ah, merci Seigneur ». Tu dis ça devant la personne. « Merci Seigneur ». Parce que ce n'est pas toi qui as fait. Et quand tu es dans les épreuves du Seigneur, ce que toi tu appelles tes problèmes, ce ne sont pas tes problèmes. C'est le terrain que Dieu met en place pour que toi tu construises ta gloire. Dieu est déjà dans sa gloire. Mais, vous savez, même si Dieu est dans sa gloire, sa plus belle gloire, c'est quoi? C'est de te gagner, toi, l'homme. Dieu est déjà dans sa gloire. Il est écrit dans Ésaïe 6, versets 2 à 3, « La terre entière est remplie de sa gloire. » L'univers entier est rempli de sa gloire. Mais la plus belle gloire de Dieu, c'est quand un homme lui est soumis. C'est là qu'il y a des manifestations au ciel. Et donc, quand nous acceptons tout ça, ces faiblesses, ces épreuves, ces difficultés, ces incompréhensions, ces calomnies, quand on dit, mais Seigneur, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de te servir, malgré tout ce que j'entends, malgré tout ce qu'on me veut, tout ce qui m'intéresse. Et Dieu est là, il regarde un ange, il dit, vous voyez là, oh, je suis glorifié là. Donc cette personne ne s'intéresse pas à elle, elle s'intéresse à moi. Mon bien-aimé, Cantique 2:16. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Qui dit cette phrase-là? C'est le Seigneur. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Donc Dieu, ça lui plaît d'être en relation d'amour et il réalise que il est tout pour un humain. Souvenez-vous, Jésus a dit quoi? Dieu cherche qui? Il cherche les véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. C'est-à-dire des gens qui vont se lever le matin pour dire, je suis mal, je ne suis pas bien, tout ça, mais à Dieu seul la gloire et je me soumets à sa volonté. Ah, comme Abraham qui va sacrifier son fils. Et quand on a demandé à Jésus quel était le commandement qu'il fallait pratiquer, il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien-aimé, ce sont ces choses-là que j'ai envie de dire que je vous laisse en héritage. Voilà, c'est ça quoi. C'est comme ça qu'on construit notre gloire pour le ciel et déjà sur terre. Parce que sur terre, elle sera invisible pour beaucoup de personnes, mais elle sera visible pour certaines personnes qui comprennent Dieu. Et cette gloire-là va avoir beaucoup plus d'effet dans le monde spirituel que la gloire qu'on peut retirer des humains sur terre. Ce qui est important, c'est le triomphe spirituel. Ce qui se passe dans le monde invisible. Ce n'est pas ce que nous voyons. Vous savez, dans une région, il y a un riche qui avait reçu un message et il avait entendu, on lui a dit, cette nuit, l'homme le plus riche du village va mourir. Il a attendu jusqu'à minuit parce qu'il savait que c'était lui, de loin, l'homme le plus riche. Et il savait que c'était Dieu qui avait parlé. L'homme le plus riche du village va mourir. Il a attendu jusqu'à minuit. Il n'est pas mort après 5 minutes. Et le lendemain matin, il était toujours réveillé. Il était toujours vivant. Et après, on vient lui dire que le pauvre qui habitait une cabane dans le village est mort. Ce jour-là, il avait compris que l'homme le plus riche, selon Dieu, c'était ce pauvre-là. Parce que ce n'est pas parce qu'il était pauvre, c'est parce qu'il croyait en Dieu. C'est parce qu'il avait confié sa vie à Dieu. C'est parce qu'il servait le Seigneur. Et lui seul, c'est pourquoi il était l'homme le plus riche du village. Bien-aimé, le monde spirituel a des réalités. Nous sommes dans un monde spirituel. Ce qui est visible est petit, c'est ce qui est invisible qui est grand. Et quand quelqu'un se soumet à Dieu, quand quelqu'un est en train de se dépouiller, quand il accepte les épreuves, quand il accepte d'être petit, quand il fait les choses pour servir Dieu, Même si on s'attend à des résultats, parce que ce sont les promesses du Seigneur. Mais quand c'est le service pour Dieu qui l'emporte sur le côté résultat promis par Dieu, ben, on est en train de construire notre gloire que nous aurons dès ici-bas et que nous vivrons clairement quand Jésus paraîtra, ça paraîtra aussi en même temps. C'est ça, la gloire de notre Seigneur et la gloire du disciple du Seigneur. C'est d'avoir une marche qui paraît inutile, qui paraît balbutiante, qui paraît faible, mais continuer par amour, par soumission à Dieu, par humilité et par foi en Dieu. C'est ça notre gloire. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous aides à nous dépouiller de nous-mêmes, à nous dépouiller de nos belles voix, à nous dépouiller de notre intelligence pour que ta gloire seule se manifeste, à nous dépouiller de nos talents dans la musique, nos talents dans la connaissance, nos talents dans le monde, Seigneur, à considérer que seul toi dois être adoré et servi, Seigneur. Que nous puissions nous humilier et accepter que nos problèmes sont tes problèmes en réalité et que ce sont tes épreuves que nous sommes en train de traverser parce que tu veux nous presser comme du vin pour obtenir le meilleur fruit du raisin, Seigneur. Tu veux te glorifier à travers notre abaissement afin que nous aussi nous participions finalement à ta gloire. Car si, Seigneur, nous ne nous abaissons pas, si nous ne sommes pas dans tes épreuves, nous ne pourrions pas participer à ta gloire, Seigneur. Or, nous, nous voulons participer à ta gloire. Nous voulons que tu sois notre gloire et que tu relèves à chaque fois notre tête lorsque nous vacillons. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.